Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'Indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. L'Indonésie a participé à Malaysia International Travel Mart à Penang. Les produits d'exportation de la pêche de l'Indonésie ont été reçus par 157 pays. L'Indonésie collabore avec les Pays-Bas pour accroître les compétences de ressources humaines du tourisme. La langue indonésienne est un programme obligatoire pour les élèves de l'école primaire à Taïwan. Selon Sandiaga Uno, il faut avoir une position constructive pour construire la nation. L'entreprise électrique d'État développe des PLTS flottants à Cirata. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le ministère du Tourisme a organisé de nouveau une promotion du tourisme en Malaisie par Malaysia International Travel Mart qui s'est déroulée du 6 au 7 juillet 2019 à Setia Space Arena, Penang, l'un des plus grands centres sportifs à Penang. C'est ce qu'a affirmé Nurdiansyah Langdi, le chef de la sous-division régionale de A, cité par Antara à Kuala Lumpur, en Malaisie. Malaysia International Travel Mart ou MITM Penang est organisé par l'Association Malaise du Tourisme Chinois, une exposition du tourisme qui sont des spectacles de consommation ou B2C. Son but est d'attirer des touristes chinois potentiels vers des destinations de recherche alternatives à l'étranger. Il a indiqué que le ministère du Tourisme continue d'intensifier la promotion de la merveille Indonésia à l'étranger, notamment en Malaisie, afin de réaliser l'objectif de 3,4 millions de visites de touristes malais sur un total de 20 millions de touristes étrangers du monde entier en 2019. Au moins 157 pays ont reçu des produits de pêche d'exportation provenant de la République d'Indonésie qui indiquent que des produits de la mer et des produits de la pêche nationaux ont été reconnus par diverses parties au niveau étranger. Cela a été dit par le chef de l'agence de la quarantaine de poissons, du contrôle de qualité et de la sécurité des produits de la pêche du ministère des Affaires maritimes et de la pêche ou KKP, Madame Rina, dans un communiqué de presse dimanche. Selon Rina, sa partie a également rédigé une note jugée brillante car les résultats en matière d'exportation de produits de la pêche ont continué d'augmenter. Il a ajouté que le volume des exportations de produits de la pêche destinés à la consommation vivante au premier semestre de 2019 avait augmenté de 3% par rapport à la même période en 2018. Elle a également déclaré que le volume des exportations de produits de la pêche non vivants, non consommés, avait également augmenté de 448%. L'École Polytechnique du Tourisme de Makassar, Sulawesi du Sud, collabore avec l'Université des sciences appliquées de Breda aux Pays-Bas afin d'améliorer la qualité et les compétences des ressources humaines du tourisme indonésien, notamment des enseignants et des étudiants. Le directeur par intérim du directeur de l'École Polytechnique Makassar, M. Muhammad Arifin, a déclaré dimanche à Jakarta qu'il a signé un protocole d'accord avec Dr. Elizabeth Mineman, président du conseil d'administration de l'Université des sciences appliquées dans la ville de Bret aux Pays-Bas le 4 juillet 2019. Il a déclaré qu'il a accepté de mettre en œuvre plusieurs domaines de coopération, entre autres le développement des compétences et des qualifications des enseignants et des étudiants au niveau master de la destination touristique. Les deux institutions ont également convenu de mettre en œuvre la formation pour renforcer le rôle de l'École polytechnique du tourisme en tant que centre d'études sur le tourisme marin, le tourisme rural, le tourisme villageois, les recherches et la publication de revenus internationaux. Actuellement, il y a 11 étudiants et 3 enseignants de l'Université des sciences appliquées de Breda qui ont visité le campus polytechnique de Makassar. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. En août, tous les élèves de l'école primaire à Taïwan doivent étudier l'une des 7 langues de l'Asie du Sud-Est, y compris l'indonésien. Selon le ministère de l'Éducation de Taïwan, les 7 langues pouvant être choisies comprennent l'indonésien, le vietnamien, le thaï, le myanmar, le cambodgien, le malais et le tagalog. En outre, les étudiants peuvent également apprendre le hokkien, le hakka, ou la langue autochtone de tribu à Taïwan. Pour enseigner ces langues, le gouvernement taïwanais a organisé une formation pour 2000 enseignants à temps partiel. Liu Qianping, l'un des membres du comité d'évaluation des livres en langue du sud-est asiatique à Taïwan, a déclaré à BBC Chine qu'en demandant aux élèves de l'école primaire d'apprendre la langue des communautés de migrants, les étudiants pouvaient comprendre les concepts de société multilingue, multiethnique et multiculturelle à Taïwan. Le candidat à la vice-président numéro 02, Sandiaga Salahuddin Uno, a déclaré qu'il fallait avoir une opposition constructive pour que la nation indonésienne soit mieux à l'avenir. Cela a été déclaré par Sandiaga Uno après avoir participé dimanche au concours Belitung Triathlon 2019 à Sijuk Belitung dans la province de Bangka Belitung. Il a estimé que la coalition Jokowi Ma'ruf Amin était assez bonne. Il a décidé de rester en dehors du gouvernement pour former une forte opposition. Il a déclaré qu'après les élections 2019, il resterait temporairement dans le monde politique mais resterait toujours avec la communauté. Il a également décidé de ne pas revenir en tant que sous-gouverneur de la province de Jakarta après son retour à ce poste. Pour les élections régionales de Sumatra occidentale en 2020, a-t-il déclaré, les élections régionales en 2020 visaient les meilleurs fils et filles de la région. Les entreprises électriques d'État, ou PLN, a développé une centrale solaire ou PLTS avec un concept flottant à Cirata dans l'ouest de Java. Le vice-président des relations publiques de PLN, Dwi Suryo Abdullah à Cirata, a déclaré dimanche que le développement se situait actuellement au niveau de la recherche de partenaires. On estime que PLTS a une puissance de 200 MW. Auparavant, la centrale solaire Cirata disposait de panneaux solaires d'une puissance de 1 MW qui s'opère depuis longtemps. Selon lui, cette centrale solaire sera située au-dessous du réservoir de Cirata qui dispose déjà d'une centrale hydroélectrique ou PLTA avec l'une des plus grandes puissances en Indonésie, soit 1008 MW. C'est le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voice of Indonesia. Vous écoutez toujours la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « On a besoin du chef idéal de la Commission d'éradication de la corruption ». Jeudi, le comité de sélection des dirigeants de la Commission pour l'éradication de la corruption ou KPK a clôturé l'enregistrement des documents candidats au bureau du secrétariat d'État. 348 personnes ont été inscrites et acceptées par le comité de sélection. Les inscriptions pour cette année se dérouleront environ 2 semaines, du 17 juin jusqu'au 4 juillet. Les candidats provenaient de divers milieux, y compris des avocats, universitaires et aussi des membres de la police. Certains d'entre eux étaient membres de la commission pour l'éradication de la corruption. Ceux qui ont réussi la sélection participeront à un test de compétences une semaine après le 11 juillet. Et ensuite, une semaine après, le comité de sélection annoncera la fin du test de compétences. Et ensuite, ils doivent passer des tests de psychologie générale et des tests publics. Le test public est effectué par les candidats à la direction afin que le public sache quels sont les candidats à la direction de KPK et quelles sont leurs capacités. En septembre, ceux qui réussiront le test public entreront en face entre vous. La dernière étape est que le comité sélectionnera les 10 dernières personnes dont les noms seront donnés au président. La question qui se pose est de savoir quelle est la figure idéale du candidat à la direction de la commission d'éradication de la corruption qui devrait pouvoir bien s'acquitter de sa tâche. Selon le président du comité de sélection du chef de la commission d'éradication de la corruption, Yenti Ganarsi, les candidats doivent comprendre et posséder une combinaison de compétences. En outre, ils doivent comprendre les problèmes financiers de l'État, comprendre les achats et bien comprendre l'organisation interne de KPK. Les candidats doivent également être soumis à une forte pression psychologique, faire preuve de sagesse et comprendre le sens du développement économique du pays. Mais la chose la plus importante est l'espoir du vice-président du KPK, M. Sao Sitomorang, qu'un dirigeant du KPK doit avoir le courage d'inclure Dieu dans sa vie. En présentant Dieu dans l'exercice de ses fonctions, la commission d'éradication de la corruption ne devrait pas hésiter, être toujours ferme et sans discrimination dans les efforts visant à éliminer la corruption en Indonésie. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 8 juillet 1976, le lancement de satellite Palapa. Le satellite Palapa A1 est le premier satellite appartenant à l'Indonésie et exploité par Perumtel. Palapa A1 a été lancé le 8 juillet 1976 avec la fusée Delta 2914 et a fonctionné du 9 juillet 1976 jusqu'en 1983. Ce satellite a été le début du programme Palapa Satellite qui a été commencé en février 1975. Palapa a été lancé au Centre Spatial Kennedy parce que le contrat a été attribué à Boeing Satellite System. En plus de Palapa A1, 9 stations terriennes, un poste de contrôle principal et l'acquisition de 2 satellites A2 ont également été construits. Après être entrés à la période d'exploitation, 6 des 12 transpondeurs Palapa A1 sont utilisés pour les applications téléphoniques, tandis que l'un d'autre est utilisé pour la télévision nationale. Et les 5 autres sont utilisés pour le sauvegarde. Ce satellite a cessé de fonctionner en juin 1985. Le 8 juillet 1994, la mort de Kim Il-sung. Kim Il-sung était politicien communiste de Corée qui a dirigé la Corée du Nord en 1948 jusqu'à sa mort. Il était premier ministre de 1948 jusqu'à 1972. Il était président de 1972 jusqu'à 1994. Mais sa position la plus influente était le secrétaire général du Parti travailleur coréen. Kim est officiellement appelé le grand chef. Selon la constitution de la Corée du Nord, il est l'éternel président du pays. Son anniversaire est l'un des jours fériés en Corée du Nord. Le Le 8 juillet 2009, l'élection présidentielle en Indonésie. L'élection présidentielle et vice-présidentielle de la République d'Indonésie en 2009 a été tenue pour la période 2009 jusqu'à 2014. Le vote a eu lieu le 8 juillet 2009. Susilo Bambang Yudhoyono et Budiono ont réussi à gagner en remportant 60,80% des voix. L'inauguration du président et vice-président pour la période 2009 jusqu'à 2014 a eu lieu le mardi 20 octobre 2009 à Gedung Nusantara, Senayan, lors de la session plénière de MPR de la République d'Indonésie. C'était l'histoire aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Kita terus maju.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Merakit, chantée par Yura Yunita. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Et voici donc Mon Indonésie. Chers auditeurs, c'est le temps maintenant pour nous de vous présenter Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie et les Émirats Arabes Unis discutent du renforcement de la coopération en matière d'investissement. Le vice-président indonésien Yusuf Kalla a reçu la visite du ministre de l'Énergie et de l'Industrie des Émirats Arabes Unis, Suhail Mohamed Al-Mazrui, vendredi le 5 juillet à Jakarta. Ils ont discuté du renforcement de la coopération en matière d'investissement des deux pays. En outre, la réunion a également préparé les plans de la visite d'État du prince héritier d'Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al-Nahyan, en Indonésie, dans la troisième semaine de juillet. Après la réunion au bureau du vice-président à Jakarta, le vice-président Yusuf Kalla a évoqué la possibilité d'une coopération en matière d'investissement dans divers domaines. Pendant ce temps, le ministre Suhail Mohamed Al-Mazrui a déclaré que son gouvernement voulait explorer la coopération en matière d'investissement avec l'Indonésie. Selon lui, les Émirats Arabes Unis s'intéressent à l'Indonésie, dont l'économie est dans le top 15 au monde. Il a ajouté qu'un certain nombre de projets avaient été discutés, notamment une coopération dans divers secteurs tels que l'immobilier, l'énergie, le tourisme et plusieurs autres secteurs. Auparavant, le ministre indonésien de l'Industrie, Erlangga Hartarto, avait rencontré mardi le président directeur général du groupe Tashid, Zayed bin Owaidah Al-Kubaisi, et la délégation des investisseurs privés des Émirats Arabes Unis au bureau du ministère de l'Industrie à Jakarta. Après la réunion, le ministre Erlangga a déclaré que les Émirats Arabes Unis exploraient la coopération en matière d'investissement dans plusieurs domaines, notamment les centres électriques, les équipements médicaux, le pétrole, le gaz, les énergies alternatives et le traitement de l'eau. Le ministre Erlangga Hartarto a affirmé que l'Indonésie considérait les Émirats Arabes Unis comme partenaire stratégique, notamment Dubaï, comme l'une des liaisons du commerce mondial pour l'augmentation des exportations de produits industriels indonésiens vers divers pays. Le ministre Erlangga a également expliqué le potentiel d'investissement du secteur des centrales électriques indonésie, le développement de l'infrastructure électrique qui atteindra 35 000 MW. Sa partie facilite également la recherche et le développement de produits de cellules solaires pour une mise en œuvre dans l'industrie et la société. En examinant le potentiel de l'industrie des équipements médicaux, le gouvernement indonésien encourage l'utilisation des dernières technologies de manière intégrée, y compris les composants, les matières premières et les matériaux auxiliaires. Il a également déclaré que les acteurs de l'industrie des Émirats Arabes Unis qui voulaient investir en Indonésie avaient désormais une bonne opportunité, car le gouvernement indonésien avait facilité la tâche des investisseurs étrangers. Serviteur, c'était Mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia. Bisa ku lawan semua. Voice of Indonesia.
Serviteur, c'était la deuxième chanson intitulée « T'as pas la salah » chantée par l'Alhuta. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,5 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs. C'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel, un programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions indonésiennes. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous inviter à visiter Tapurarang, un site antique à Farfar en Papouasie-Occidentale. L'Indonésie n'a pas seulement des attraits naturels tels que des plages et des montagnes. Derrière les belles plages de l'Indonésie, il y a les sites antiques, vestiges de l'âge de pierre. L'un d'eux est le site Tapurarang, situé sur le front de mer de la région de Farfar, plus précisément à Kokas, dans la région de Farfar, en Papouasie-Occidentale. Ce site semble raconter des événements passés qui ont été peints à travers plusieurs empreintes de main et les jambes rouges sur le mur de la grotte. Le site Tapurarang est un objet de peinture représentant les pommes, les jeux, plantes des pieds, les dauphins, les lézards, les plantes, les feuilles, les visages humains jusqu'à boomerang. Ces peintures ont l'air ordinaires, mais elles décrivent parfaitement l'être humain et son quotidien. La technique de ces peintures est unique, parce que ces objets ont été réalisés comme s'ils étaient pulvérisés à l'aide d'encre rouge et jaune. Des points de peinture existent au bord des objets. Les matériaux de ces peintures provenaient certainement de colorants naturels. Cependant, ces couleurs sont encore préservées jusqu'à présent. Les habitants de Kokas considèrent que le site est un lieu sacré car on peut y trouver un corps humain qui appartiendrait aux ancêtres du peuple Kokas. Dans le passé, les habitants d'ici avaient coutume de déposer le corps de leurs ancêtres à la falaise, à la niche, à la baie, au grand arbre et à la grotte qu'ils considéraient comme sacrée. Chers auditeurs, la particularité de l'endroit est l'existence d'une forêt de mangroves fertile accompagnée d'une eau claire qui coule à travers la région environnante, associée à des grands arbres ombragés. Ici, vous pouvez trouver des centaines d'espèces d'oiseaux telles que les hérons, les cacatoès, les perroquets, le paradis, vivent toutes à l'état sauvage et n'ont pas peur de voler au-dessus de votre tête. Pour accéder au site, vous devez prendre un voyage terrestre de Farfar au port de Badari. Le trajet dure environ 2 heures. En arrivant au port de Badari, vous pouvez monter en chaloupe. Le trajet en eau dure 2 heures. Si la marée est haute, vous pouvez monter à la falaise et voir les peintures de plus près. Mais si la marée est basse, la beauté des peintures ne peut être appréciée que depuis la chaloupe. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Tapurarang, un site antique à Farfar en Papouasie-Occidentale ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Dea intitulée Cinta 99%. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici la rubrique Apprendre l'indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Ce programme est une collaboration entre la Voix d'Indonésie et l'Agence pour le développement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture d'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Adasha Segi Empat. En langue française, y a-t-il un foulard rectangulaire? Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Ada Shal Segi Empat » ou en langue française « Y a-t-il un foulard rectangulaire ?» Tony est dans un centre commercial avec Enda. Il est un vendeur dans un magasin qui offre un foulard.
Silakan kak shalnya. Ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
Boleh. Ini barangnya.
Chers auditeurs, après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir « Ada Shal Segi Empat » ou en langue française « Y a-t-il un foulard rectangulaire ?» Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Silakan Shalnya. Silakan Shalnya. En français, s'il vous plaît le foulard. Segi Tiga. Segi Tiga. En français, triangle. segi empat, segi empat, en français, rectangle. Boleh lihat dulu, boleh lihat dulu. En français, puis-je le voir d'abord? Boleh lihat yang segi empat, boleh lihat yang segi empat. En français, puis-je voir le rectangle? Boleh, boleh. En français, bien sûr. Ini barangnya, en français, c'est l'article. Dans l'activité d'acheter et de vendre, vous pourriez mentionner la forme de l'article que vous souhaitez d'acheter, à savoir segi tiga, en français, triangle, segi empat, en français, rectangle, bulat, bulat, en français, rond, dan lain-lain, en français, et les autres. En dialogue, le vendeur mentionne la forme du foulard. Il y a des triangles et des rectangles. Enda voulait voir un foulard rectangulaire. Elle demande au vendeur en disant boleh lihat yang segi empat? Boleh lihat yang segi empat? En français, puis-je voir le rectangle? Autre exemple, Enda et Tony sont en train de choisir les assiettes. Tony, kamu mau piring kotak atau bulat? Kamu mau piring kotak atau bulat? En français, voulez-vous une assiette rectangulaire ou ronde? Enda, saya mau yang bulat. Saya mau yang bulat. En français, je veux la ronde. Nous mentionnons les formes non seulement lors des achats, en conversation dans son contexte. Bentuk wajahnya bulat. Bentuk wajahnya bulat. En français, la forme de son visage est ronde. Apakah kamu melihat lampu saya yang kotak? Apakah kamu melihat lampu saya yang kotak? En français, voyez-vous ma lumière rectangulaire? Aku mau penghapus yang berbentuk bintang. Aku mau penghapus yang berbentuk bintang. En français, je veux une gomme en forme d'étoile. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Silakan Kak Shalnya, ada yang segitiga dan segi empat. Boleh lihat dulu.
Boleh lihat yang segi empat?
Boleh. Ini barangnya.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Rasa sesal yang selalu datang memaksaku untuk kembali.
rasanya itu takkan mungkin terjadi.
Memang salahku, hadapi semua kenyataan, jalani semua walau tak bisa cintaimu sepenuh jiwa. Aku
of Indonesia.
Saat kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah ada jenuh karena hatimu tertahan rasa sakit.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Lulu, chantée par Jess. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette fois, nous vous présentons la chanson de Kroncong intitulée « Tempat Lahirku ». Le lieu de naissance est un lieu qui ne sera jamais oublié, surtout si quelqu'un y est né et a grandi. C'est ce qui a été dit dans la chanson de Kroncong créée par S. Darmanto. Cette chanson décrit un magnifique lieu de naissance situé à flanc de montagne entre Rizière et Chandori. Là, aussi le père travaillait pour gagner sa vie. Le pays de naissance ne sera jamais oublié. Bon, chers auditeurs, voici Panji Asmoro chantant la chanson de Kroncong intitulée « Tempat Lahirku » ou en français « Mon lieu de naissance ». Bonne écoute!
Thank you. halaman tetap jadi kenangan.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.